Avons-nous conscience qu'il y a un ennemi de la nature humaine? Avons-nous conscience qu'il y a un être réel qui veut notre perte, qui veut nous égarer loin de l'accomplissement de notre vocation au partage de la vie divine? Les lectures de ce dimanche nous le rappellent. C'est d'un côté l'épisode du jardin de la Genèse où le serpent induit Adam et Ève au péché. Et de l'autre, ce sont les tentations de Jésus au désert par le même Satan, un nom qui veut dire l'accusateur, l'ennemi. Ce premier dimanche de carême nous dispose donc au combat spirituel. Serons-nous dans la lignée d'Adam et Ève, ou serons-nous dans la lignée du Christ, vainqueur du diable et de ses ruses? Je vous propose aujourd'hui de regarder le mécanisme de la tentation pour apprendre à mieux y résister. Le pouvoir ordinaire du démon sur l'homme est limité. Après, si la liberté de l'homme lui ouvre un plus grand accès, il ne s'en privera pas. Mais ordinairement, Dieu a contenu son action à la tentation. Celle-ci se décompose en trois phases. Première phase, suggestion. Deuxième phase, délectation. Troisième phase, consentement. Le livre de la Genèse nous permet de l'appréhender. La suggestion est plus subtile que le simple « vous serez comme des dieux ». Avant d'en arriver là, le terrain a été préparé. Le Satan commence à dire « alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Ça peut sembler subtil, mais il est déjà en train de transformer l'image que l'on a de Dieu. Le Dieu qui avait d'abord donné la vie, d'abord donné la terre, qui avait d'abord béni l'homme, devient, dans la bouche du serpent, d'abord le Dieu qui interdit, d'abord le Dieu qui restreint la liberté. Alors vous ne mangerez pas. Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres. Et l'effet est immédiat. La représentation que la femme se fait du jardin change. Le jardin, dans son esprit, n'est désormais plus centré sur l'arbre de la vie, mais sur l'arbre dont le fruit fait mourir l'homme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous allez relire le chapitre 2, vous vous rendrez compte que l'arbre au milieu du jardin, c'est bien l'arbre de vie. Or voilà que, dans sa réponse, la femme désormais centre le jardin sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jardin, ça représente la façon dont notre vie est organisée. Ça représente la façon dont nous hiérarchisons les biens entre eux. À quoi correspond du coup ce recentrage du jardin? À une réorganisation, à un bouleversement de notre perception du plus grand bien. Je vais vous donner un exemple vraiment caricatural. Imaginez, je promène dans les champs avec mon petit frère, j'ai un faux pli au niveau de mon cou qui m'irrite fortement. Mon petit frère tombe dans un ruisseau. Quel est le plus grand bien? Qu'est-ce qui est le plus important? Le sortir du ruisseau ou me défaire de ce mauvais pli qui mérite le coup? À froid, j'aurais certainement jugé que c'était mon petit frère. Cependant, la suggestion a pour objet de bouleverser notre classement des biens, tant et si bien que le pli qui mérite devient le plus central à mes yeux. Voilà ce que l'effet de la suggestion produit. Et puis, elle introduit un doute sur la qualité de l'amour que Dieu nous porte. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, et il ne le veut pas. Et Dieu, en fait, serait jaloux et voudrait empêcher l'homme de se hisser plus haut. Et il y a tout un terrain qui a été préparé par des petites touches. Enfin, elle propose un moyen de contourner donc ce Dieu jaloux pour atteindre ce nouveau plus grand bien. Mais ce sera un moyen sans Dieu. Ce sera un moyen malgré Dieu. Ce sera un moyen contre Dieu. Un moyen aussi qui prétendument n'aurait pas de conséquences funestes. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Vous savez que ce sont des expressions que l'on a entendues. Ce n'est qu'un petit péché, un péché mignon même. Ce n'est pas si mal. Et si ce n'est pas si mal, c'est plutôt bien, non? C'est le vendeur de drogue qui vous explique que sa substance n'induit pas ou quasiment pas de dépendance physique en omettant de parler de la dépendance psychologique qu'elle induit. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Enfin, pas tout de suite. Si la suggestion n'est pas repoussée, on entre alors dans la phase de la délectation. Ce plus grand bien nous semble délectable, à portée de main. D'ailleurs, il n'y a aucune conséquence funeste, nous a-t-on dit. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable. Vous voyez, c'est comme si vous voyez un beau fruit, vous voyez tout d'un coup sa belle couleur, vous approchez, vous sentez son odeur, c'est agréable, c'est le bruit du couteau qui entre dans la chair de ce fruit et qui nous dit déjà ce que nous allons déguster, c'est la consistance que nous sentons dans nos mains. Voilà tout cela qui nous fait déjà saliver. La délectation met en action nos sens et plus elle en mobilise, plus elle est forte. Il faut comprendre que quand on en est à la délectation, on est déjà un peu comme le poisson qui a été ferré. Qu'est-ce que ça veut dire, un poisson qui a été ferré? C'est le poisson qui a vu le ver sur l'hameçon, il a gobé le ver, oui, mais l'hameçon est rentré dans sa lèvre, il est ferré. Alors certains poissons qui sont vigoureux, on ne peut pas les remonter tout de suite. C'est pas grave, le pêcheur est patient. Il va tirer un peu la ligne, puis comme il a encore le poisson a de la vigueur, on va le laisser aller encore. Et puis on va retirer le temps qu'il se fatigue. De toute façon, il est ferré, il est déjà pris, ce n'est plus qu'une question de temps. Et nous comprenons qu'il n'y a pas de délectation gratuite et sans danger. Oui, c'est ce que nous dit parfois avec erreur, notre imagination qui s'est déjà laissée prendre. Mais je ne fais que regarder, promis, je ne le ferai pas. Mais j'ai introduit dans mon cœur et dans ma mémoire une image qui ne s'effacera pas et qui grandira. La délectation issue de la tentation a cette caractéristique d'être comme la lumière qui attire le papillon. Vous savez, le papillon, il ne voit plus que ça, et il se cogne contre cette lumière. Elle fascine et aveugle tout à la fois. Tout le reste semble disparaître. Il y a une échappatoire du réel. Vous voyez, la notion de temps, de la responsabilité, la mémoire des conséquences douloureuses qui ont déjà pu être connues dans le passé, tout cela disparaît du champ de notre attention. Voilà, c'est d'ailleurs une des façons dont on a de pouvoir reconnaître la délectation issue de la tentation, c'est qu'elle efface tout le reste, tandis qu'une lumière venue de Dieu conserve la conscience et la perception des autres, conserve la conscience et la perception de nos responsabilités, conserve la conscience et la mémoire de ce qui s'est déjà passé lorsque nous faisions cela. Le soin du prochain, la responsabilité vis-à-vis des autres et même de la société n'est pas effacée par une lumière que Dieu donne. La lumière, la délectation issue de la tentation aveugle sur tout cela. Cette fascination dans cet état qui est une échappatoire du réel nous donne l'impression que ce plus grand bien est juste là, à portée de main, que notre vie même sera insupportable si nous ne nous en emparons pas. Qu'une grande tristesse nous menacera si nous ne le faisons pas. Et même que c'est juste, c'est notre droit de saisir ce qui est censé nous donner le bonheur, ou au moins un moment de répit. Et ce dernier constat nous amène à la troisième phase, le consentement. C'est notre droit, la vie est déjà si dure, j'ai bien le droit à cette consolation. Cela entraîne notre consentement. Elle prit de ce fruit et en mangea. Mais vous voyez comment ce consentement vient au terme de tout un processus, une suggestion qui est arrivée par touche pour détruire l'image que nous avions de Dieu, en faire un Dieu jaloux, un obstacle entre notre plus grand bien et nous, recentrer notre vie, non plus sur le plus grand bien, mais sur un autre bien qui, en fait, aurait dû être inférieur. Nous inviter à prendre un moyen sans Dieu, malgré Dieu, contre Dieu. Et alors, c'est le retour de la réalité. Le réel reprend ses droits, leurs yeux s'ouvrirent. S'ouvrir sur quoi ? Sur le fait qu'ils seraient comme des dieux ? Non. Ils découvrent que ce monde rêvé par la tentation s'est évanoui et ils expérimentent cette nudité, le dépouillement du vêtement de la grâce qui a été abandonné. C'est le voleur qui découvre que c'est pas seulement un objet qu'il avait dérobé, mais c'est tout le crédit, toute la confiance qui lui était accordée qui est en morceaux. C'est la même chose pour le menteur. L'adultère est rattrapé par la peine de ses enfants, de son entourage qui se divise. Le cupide est tenaillé par la peur de manquer ou d'être volé. L'addict éprouve la tristesse de la dépendance et la mémoire d'une délectation première perdue. Le réel revient au galop. Le Christ, cependant, nous montre dans l'Évangile un chemin de victoire, et même le chemin de la victoire. À la place du sans Dieu, malgré Dieu, voire contre Dieu du diable, ce sera le par lui, avec lui et en lui. Ne soyons pas dupes. Face aux démons, nous ne sommes pas de taille. Il est ange déchu, mais ange, et nous sommes humains. Il sait attaquer là où nous sommes le plus faibles. Voyez comment il attend le 40e jour de jeûne de Jésus. Il sait même manipuler les Écritures pour nous proposer une fausse légitimité. Unis au Christ, cependant, nous devenons participants de sa victoire. Alors, quel conseil retenir justement pour vivre ce combat spirituel uni au Christ? Le premier conseil, c'est que c'est au moment de la suggestion que nous sommes libres pour réagir. C'est au moment de la suggestion que nous avons la force de nous détourner du tentateur et de retourner au Christ. Vous savez bien que lorsque l'idée nous vient, il y a quelque chose comme 1 à 2 secondes où on peut dire non. Il y a 1 à 2 secondes où on peut dire non, on sait que c'est un piège. Et que si on reste plus longtemps, en fait, on va être ferré. Vous voyez, la suggestion au départ, elle arrive, imaginez un livre ouvert sur la plage et le vent souffle et fait tourner les pages. Eh bien voilà, vous avez des images qui passent sur ce livre et vous les voyez. Ce n'est pas vous qui avez tourné les pages. Votre responsabilité, elle n'est pas encore engagée. Mais il y a une différence entre les pages tournent et tout d'un coup, je mets la main et je décide de contempler. Alors là, j'ai engagé ma volonté. À partir de ce moment-là, ma volonté est souillée. Et c'est quand ces 2 secondes sont passées et je dis, je vais quand même regarder. Oh, mais je ne le ferai pas, bien sûr. Non, mais je vais quand même le regarder. Là, j'ai mis la main de ma volonté pour regarder la page et je me suis dit, je vais goûter un peu. Et en fait, je vais rentrer dans la délectation. User de ces 2 secondes en nous disant vraiment, je sais que c'est un piège. Seigneur, c'est toi que je choisis, c'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. Donc, intervenir dès le moment de la suggestion et comprendre que si nous laissons la délectation s'installer, nous sommes comme le poisson déjà ferré. Du coup, lorsque nous nous rendons compte, peut-être que nous sommes dans cet épisode un peu comme le poisson qui a été ferré, on n'est pas encore sorti de l'eau, mais on a été ferré. Confessez dans le sacrement de la réconciliation cette délectation. Seigneur, j'ai aimé ne serait-ce que contempler le péché. Je l'ai fait en pensée, justement. Confessez cela pour retrouver cette liberté. Il y a une libération que nous avons besoin de recevoir de Dieu. C'est le deuxième conseil. Après rejeter la suggestion immédiatement dans ces 2 secondes qui nous sont données, confessez si nécessaire cette contemplation de la délectation. Et puis troisième conseil, demandez l'espérance. Vous savez, c'est demander l'espérance de la vie avec Dieu. La tentation vient nous attaquer sur notre volonté de vie d'abord. Mange du pain. La deuxième proposée au Christ, saute, éprouve ta protection, la protection de ta vie, sois-en sûr. Ou bien reçois ce pouvoir sur toutes les nations, sans effort, ni contradiction. Tout cela semble désirable, sauf que cela se fait sans Dieu, malgré Dieu, voire contre Dieu. Le Seigneur ne veut pas la mort de l'homme. Il n'est pas indifférent à la rudesse de notre vie et il nous donne vraiment les paroles de la vie éternelle. Pour garder au cœur cette espérance, le meilleur des moyens, c'est l'action de grâce. Faire mémoire de ce que Dieu a fait pour nous dans notre histoire. C'est un leitmotiv qui revient sans cesse dans l'histoire d'Israël. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie? Et personne ne peut répondre à cette parole à votre place. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, peut-être qu'il m'a donné de bons parents. Peut-être que j'ai eu telle joie avec mes enfants. Peut-être que dans mes études, il y a telle chose vraiment qui a transformé ma vie. Ça a été une grande joie pour mon intelligence. Peut-être que c'est en me promenant dans les champs où j'ai senti telle odeur, où j'ai vu tel paysage qui m'a remué le cœur. Il nous faut faire mémoire de ces moments où nous avons pu rendre grâce. Ils sont le signe qui fortifiera en nous que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de vie et qu'il nous conduit à la vie. Frères et sœurs, en ce premier dimanche du temps de carême, puissions-nous entrer dans ce combat spirituel, et j'allais dire, entrer dans ce combat spirituel, de toute façon nous y serons, que nous le voulions ou pas, mais entrons dans ce combat spirituel par le Christ, avec lui et en lui. Peut-être que tout à l'heure, à la prière eucharistique, nous serons tout particulièrement attentifs à ces paroles. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous aurons ce désir d'être vraiment avec le Christ pour être sur le chemin de la vie et pour déjouer les ruses du tentateur qui lui veut notre mort. Par lui, avec lui et en lui. Amen.